Bienvenue sur la planète et sa banlieue. Comme tous les soirs aussi, c'est avec le journal qu'on commence. Amélie Perrier, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mardi commence avec un ciel qui se vide
des
de
Boeing,
certains avions.
Oui, des Boeing interdits de voler en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Chine, en Australie. Le modèle 737 Max qui s'est écrasé en Éthiopie ce week-end est cloué au sol un peu partout sur la planète. Principe de précaution. Une autre catastrophe en mer cette fois. Un cargo vient de couler au large de l'île Dieu à son bord et désormais au fond de l'océan, des vieilles voitures, des déchets polluants et du fioul lourd. La jeunesse algérienne se méfie, les étudiants manifestent aujourd'hui encore malgré le retrait du président Bouteflika de la prochaine élection présidentielle, un scrutin reporté sine die. Érigé en symbole des violences policières, Adama Traoré mort lors de son interpellation. Les investigations sont terminées sans aucune mise en examen. Et puis des chercheurs veulent faire revivre des mammouths grâce à des cellules congelées et à une souris. L'idée pas si folle est en train de se réaliser.
À 18h15, un jour dans le monde et nous aussi nous sommes en Algérie. Amélie, on va entendre les jeunes algériens ici en France et là-bas en Algérie, c'est leur mouvement qui est loin d'être fini. On verra comment se présente la suite pour cette génération révolution qui est celle des jeunes Algériens aujourd'hui. Nous sommes aussi au Rwanda, les 25 ans du génocide cette année et le pays qui tourne un film d'après Le Petit Pays de Gaël Faye. Isabelle Pasquier a pu suivre ce tournage et puis 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, c'est l'ami Stéphane Leneuf qui s'y colle. Téléphone sonne Europe comme à chaque session parlementaire autour de l'industrie européenne. Après l'échec de la fusion Alstom-Siemens, l'Europe se donne-t-elle les moyens d'une vraie industrie, une politique industrielle? Vos questions, vos témoignages comme d'habitude, 01 45 24 7000.
France Inter.
La France, donc, et une partie de l'Europe emboîtent le pas à l'Éthiopie, à la Chine, à l'Indonésie.
Les autorités suspendent les vols des Boeing 737 MAX. C'est ce modèle d'avion qui s'est crashé ce week-end en Éthiopie, tuant les 750 passagers et personnels à bord près de la capitale, Addis Abeba. L'Italie, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Allemagne font de même. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir Amélie.
Des espaces aériens fermés un peu partout sur la planète à un modèle d'avion. C'est inédit, surtout que l'on n'a pas encore les résultats de l'enquête sur le crash. Comment on explique cette décision, Philippe, à la Direction Générale de l'Aviation Civile en France, pour commencer donc ?
Eh bien, tout d'abord, on nous dit que c'est une procédure excessivement rare. Jusqu'à présent, seuls les avions des compagnies aériennes inscrites sur la liste noire de l'Union Européenne étaient interdits de survol. Aujourd'hui, pour Gilles Gosselin, le directeur général d'Aviareps, une société qui représente en France des compagnies étrangères, eh bien, c'est l'application du principe de précaution.
C'est rare, mais c'est arrivé dans le passé sur différents types d'avions et de constructeurs. Le transport aérien est le mode de transport le plus sûr parce que on ne prend jamais aucun risque. Et la non-prise de risque impose toujours de la part des aviations civiles, des constructeurs ou des compagnies aériennes, donc de prendre toutes les précautions.
Alors Philippe, clouer des avions au sol, ça a quelles conséquences sur le trafic aérien ?
Eh bien en Europe, disons-le clairement, très peu de problèmes parce qu'il n'y a pratiquement pas de 737 MAX aux couleurs de compagnies européennes, sauf, vous l'avez dit, de Norwegian ou d'Air Europa en Espagne. Et dans tous les cas, la procédure est simple. Transfert des passagers dans un autre avion de la compagnie ou dans un avion d'une compagnie concurrente ou d'une société de location d'avions de dépannage fournie avec un équipage prêt à décoller. Mais cela va coûter cher, très cher aux compagnies qui ont des 737 MAX bloqués. Et il n'est pas impossible qu'elles se retournent contre Boeing pour obtenir des dédommagements.
Philippe Lefebvre, merci à vous. Et la carte des pays qui interdisent le survol des Boeing 737 MAX, c'est à voir sur notre site franceinter.fr. Catastrophe dans les airs, catastrophe écologique en vue, en mer également. Un cargo a coulé cet après-midi dans le golfe de Gascogne. Le Grande américain, un navire de commerce italien, était en feu depuis deux jours au large de l'île Dieu. Les passagers à bord ont tous été évacués, mais le chargement qui a coulé fait craindre le pire. Le récit de Benjamin Bourgine.
Après plus de 40 heures d'incendie non maîtrisé, il était difficile d'envisager une autre issue à cette fortune de mer. Le cargo Grande America brûlait depuis la soirée de dimanche. Heureusement, l'équipage a été rapidement électroyé, sain et sauf. Mais depuis, les experts s'arrachaient les cheveux. Impossible de remorquer un navire en feu. Impossible d'envoyer trop d'eau en direction des flammes sous peine de renforcer le poids et donc l'inclinaison du bateau. À l'intérieur de ce cargo à la dérive, on l'imagine aussi, la cargaison a dû partir dans tous les sens avec en plus une mer formée. Et pourtant, sur place, la marine française avait dépêché de grands moyens, une frégates, des avions de reconnaissance et des navires d'assistance. Mais tout ça en vain. À 15h26, le Grande America et ses 214 mètres de long sont partis par le fond, avec surtout une cargaison de véhicules et de déchets en tout genre. Autant de choses particulièrement polluantes en plein milieu de l'océan. Prévenir les risques de pollution et les risques à la navigation, ce sont désormais les priorités des autorités.
S'agit-il vraiment de la fin ou d'un tour de passe-passe du pouvoir en Algérie?
Au lendemain de l'annonce du président Bouteflika de renoncer à un cinquième mandat, des milliers d'étudiants ont manifesté. Eux ne veulent pas croire en l'insincérité du retrait du vieux Raïs. Car si Abdelaziz Bouteflika ne se présentera pas à un cinquième mandat, il repousse aussi l'élection présidentielle et prolonge son mandat actuel pour une durée indéterminée. D'où la méfiance des étudiants rencontrés à Alger par notre correspondante Laïla Berato.
Des pancartes actualisées, de nouveaux slogans, des idées pour modifier la constitution écrite sur des post-it colorés et collés sur les murs de la place Maurice Audin. Les étudiants et les lycéens étaient des milliers aujourd'hui dans le centre d'Alger pour réclamer un changement de système politique, protester contre les annonces du président Abdelaziz Bouteflika et demander le départ du président. Bouchra, 20 ans.
On sortait contre le cinquième mandat et contre le système. Alors aujourd'hui, il abandonne le cinquième mandat. Mais c'est comme s'il n'avait rien fait. Il prolonge le quatrième mandat. Alors on est là pour leur dire qu'on est contre. Contre qu'il poursuive son quatrième mandat et contre le système.
Sur les pancartes, on voit partout des slogans contre un quatrième mandat rallongé, mais aussi des phrases contre les partis d'opposition ou la conférence nationale qui est qualifiée de fausse ouverture. La manifestation dans le centre de la capitale a duré plusieurs heures. Dans le calme, réunis en assemblée générale, les étudiants de l'université d'Alger 2 parlent de ruse du système et appellent à une nouvelle manifestation étudiante mardi prochain, tout en répétant qu'ils refusent les vacances forcées qui ont été décidées par le ministère de l'enseignement supérieur.
Laïla Berato à Alger pour RFI et France Inter. De son côté, le président Emmanuel Macron a salué la décision du président Bouteflika tout en appelant à une transition d'une durée raisonnable. La guerre est-elle terminée contre Daesh en Syrie? La bataille n'est pas achevée, lançait hier le groupe État islamique. Il appelait ses combattants retranchés à Baghouz en Syrie à faire preuve de persévérance. C'est la dernière enclave tenue par les djihadistes dans le pays. Et comme une réponse aujourd'hui, l'alliance arabo-kurde face à eux annonce qu'environ 2000 djihadistes et membres de leur famille viennent de se rendre. Alors cela veut-il dire que la défaite finale de Daesh est imminente? Il faut rester encore prudent. Emmanuel Macron est en tournée en Afrique ce matin à Djibouti, ce soir en Éthiopie. Le chef de l'État se rend ensuite au Kenya où il assistera à l'Assemblée de l'ONU pour le climat. Emmanuel Macron invité à revenir sur le continent dans moins d'un mois. Le Rwanda le convie aux cérémonies du 25e anniversaire du génocide de 1994 contre les Tutsis. Le drame a créé beaucoup de tensions entre Paris et Kigali depuis un quart de siècle. Le rôle de l'armée française à l'époque reste problématique là-bas. Mais les relations se réchauffent doucement. L'Élysée n'a pas encore fait savoir si le président Macron se rendrait sur place le 7 avril donc prochain pour cette commémoration.
Et à 18h08, l'actualité à l'étranger, ça continue Amélie, puisque le Royaume-Uni vit une nouvelle fois des heures cruciales.
Le Parlement britannique vote sur le traité de retrait de l'Union européenne. Un texte corrigé hier lors d'une rencontre in extremis entre la chef du gouvernement Theresa May et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. C'était à Strasbourg. Mais les corrections pourraient ne pas suffire. Le conseiller légal du gouvernement britannique estime que cela ne change rien au risque juridique. Un groupe de parlementaires eurosceptiques influents a recommandé le rejet de l'accord de Theresa May. En attendant le résultat du vote dans la soirée, voilà la dernière réponse de la chef du gouvernement à la Chambre des communes.
Si ce vote échoue ce soir, si cet accord n'est pas validé, alors il n'y aura peut-être pas de Brexit du tout. Je pense qu'il est absolument impératif que le Parlement respecte la décision prise par les citoyens britanniques en 2016. Cet accord garantit les droits des expatriés au Royaume-Uni. Il permet de mettre en place une période de transition. Il permet de reprendre le contrôle des finances publiques au lieu de payer une somme énorme chaque année à l'Union européenne. Il permet de mettre fin à la libre circulation des personnes en instaurant un système d'immigration choisi en fonction des compétences. Nous devons montrer que le Royaume-Uni est un pays qui respecte les décisions démocratiques prises par le peuple.
Voilà, Theresa May qui est sur le point de perdre peut-être bien plus que sa voix au Parlement. Ces propos étaient recueillis par notre correspondant à Londres, Antoine Gignot. Et ce Brexit inquiète aussi les douaniers français. Une charge de travail plus importante avec des contrôles accrus le jour où le Royaume-Uni sortira de l'espace commun. Ils étaient en grève depuis plus d'une semaine à Calais et Dunkerque. Bercy Bercy vient de leur débloquer une enveloppe de 14 millions d'euros des primes exceptionnelles versées d'ici le 1er juillet.
Pas de coupable pour la mort d'Adama Traoré.
C'est la crainte de la famille du jeune homme mort lors de son interpellation en juillet 2016. On apprend aujourd'hui que les juges d'instruction ont terminé leurs investigations et n'ont prononcé aucune mise en examen. Cela ouvre la voie à un non-lieu. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Adama Traoré est devenu un symbole des violences policières. Alors ses proches n'ont pas l'intention d'en rester là, Emmanuel.
Et c'est bien pour cela que la famille Traoré et leur avocat n'acceptent pas que l'on dise que le dossier est clos, puisqu'ils ont effectué ces derniers jours plusieurs demandes d'actes supplémentaires, comme la loi le leur autorise. Ils ont par ailleurs déjà fait appel d'un refus des juges d'instruction de demander une contre-expertise médicale à celle rendue par un professeur parisien. Une expertise qui explique qu'Adama Traoré était atteint d'une maladie tropicale, la drépanocytose, et d'une pathologie rare qui, conjuguée sous l'effet du stress de l'interpellation après un effort violent, a entraîné un malaise cardiaque fatal. Une version que la famille Traoré conteste depuis le départ. Elle estime que la mort du jeune homme est due au genou d'un gendarme laissé trop longtemps dans son dos entre les omoplates lors de son arrestation et qui a provoqué une asphyxie et son arrêt cardiaque lors de son transfert vers la gendarmerie. Les proches d'Adama Traoré rappellent que la première expertise médicale à Pontoise s'était déjà trompée en parlant d'insuffisance cardiaque.
Merci beaucoup Emmanuel Leclerc. Plus de 1200 salariés ou retraités de Renault Trucks aujourd'hui au Prud'homme dans le Rhône. Ils veulent faire valoir un préjudice d'anxiété aux constructeurs de poids lourds. L'usine de Vénissieux a été classée site amiante en 2016. À cause du nombre exceptionnel de plaignants, l'audience a été délocalisée aujourd'hui dans une salle polyvalente à Rieux-la-Pape, dans la banlieue de Lyon. L'avocat des plaignants réclame 15 000 euros pour chacun, soit 18 millions d'euros au total. La décision sera rendue le 29 octobre. La pollution de l'air pourrait être deux fois plus meurtrière que ce que l'on pensait. Une étude aujourd'hui la juge responsable de 8 800 000 morts par an dans le monde. Et rien qu'en France, 67 000 décès sont attribués à la mauvaise qualité de l'air. On va terminer, pas avec des espèces qui disparaissent, mais avec des animaux que l'on voudrait faire revenir d'un passé ancien. Des chercheurs ont réussi à activer des cellules d'un mammouth congelé. Les cellules ont 28 000 ans. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Notre spécialiste des sciences, vous allez nous expliquer. Alors faire renaître l'espèce disparue il y a 10 000 ans paraît encore hypothétique, mais l'équipe essentiellement japonaise a quand même réussi à obtenir une demi-résurrection, c'est ça?
Oui, cette équipe a isolé des cellules issues de Yuka, un bébé mammouth sorti du sol gelé de Sibérie en 2010 et l'un des mieux conservés jamais trouvé. Pour autant, après 28 000 ans au froid, ces cellules ne sont pas de la toute première fraîcheur et tout n'a pas marché comme prévu. L'équipe japonaise a donc pris les noyaux de ces cellules et les a injectés dans des cellules sexuelles de souris. L'idée était de voir si une division cellulaire avait lieu. La division, c'est le début de la reproduction. Et pourquoi la souris? En fait, elle n'a servi que d'outil de laboratoire dans cette expérience. Et donc, ça n'a pas marché. Pour autant, ces chercheurs affirment dans leur publication qu'il y a quand même eu un petit quelque chose, une activité cellulaire pour 5 cellules sur des dizaines. Un raisonnement qui relève de la méthode Coué pour le paléontologue Régis De Bruyne du Muséum National d'Histoire Naturelle qui lui aussi travaille sur Yuka.
Et ce que nous montre cet article avant tout, c'est que même s'il reste des morceaux de molécules et de protéines dans ces noyaux abîmés de mammouth, eh bien, a priori, ça ne permet pas de restaurer leur fonction cellulaire classique de division, notamment. Les avancées apportées par ce papier, elles sont assez maigres, en fait. Elles ne apprennent absolument rien d'autre sur la biologie, l'histoire du mammouth. C'est formellement assez vain.
Pourtant, cela fait 20 ans que les Japonais, les Coréens aussi, croient au clonage du mammouth. Aux États-Unis, une équipe aussi poursuit cette voie. Mais la majorité des paléogénéticiens sont sur une autre ligne. Faire revivre cette espèce disparue n'a aucun intérêt.
Vraiment, on aimerait bien, nous, le retour des mammouths. Merci beaucoup.
Mais parlez pour vous. Attendez,
vous mettriez aux oreilles sur Mammouth Park,
bah,
si vous voulez.
Avec des souris, je sais pas, non? Ça fait mélange.
Moi, j'ai compris qu'un mammouth avait accouché d'une souris. Et franchement, je suis un peu choquée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez. Amélie Perrier, merci pour le journal. Et changer de casquette pour revenir dans Un jour dans le monde.
Oui, sous les radar ce soir, Wonder Woman vole au secours d'une actrice israélienne. Un conflit peu connu dans le Caucase, le Karabakh, menace de s'embraser à nouveau. Et puis une histoire plus légère d'avion qui fait demi-tour cette fois parce que l'on a oublié un bébé à l'aéroport.
Voilà, version saoudienne de « On a oublié mamie sur l'aire d'autoroute ». Allez, à tout à l'heure. Ce soir, nous sommes en Algérie avec les jeunes Algériens qui n'ont pas quitté la rue. Quelle suite maintenant? Quels espoirs surtout pour ce qu'on va appeler la génération révolution? On verra ce qu'ils en pensent. Nous sommes aussi au Rwanda ce soir où on tourne un film d'après le livre de Gaël Faye, Petit Pays, Isabelle Pasquier y était. Et puis le téléphone sonne, je vous le remets en tête, c'est Stéphane Le le 9 ce soir, comme à chaque session parlementaire à Strasbourg. Il se penche sur l'Europe industrielle. Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'elle se donne les moyens d'exister? Quelle leçon de l'échec Siemens-Alstom? 01 45 24 7000.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Et Sébastien Léas, il pleut sur le nord-ouest.
Oui, c'est la perturbation associée à la tempête Garrett qui est centrée, elle, au nord de l'Écosse. Les pluies s'étendent actuellement entre les Pays de la Loire, le Poitou, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Temporairement, les pluies sont soutenues et le vent souffle également fort avec des rafales de 70 à 90 km par heure, voire localement plus de 100 km par heure près des côtes. Et cette perturbation pluvieuse va continuer sa route vers l'est et le sud ce soir. Elle donnera même de la neige à assez basse altitude sur l'ensemble du relief avant de s'évacuer en cours de nuit.
Et puis demain, temps changeant.
Oui, des pluies résiduelles traîneront encore demain matin sur l'ouest de la Corse, mais un temps capricieux va se mettre en place sur l'ensemble de l'Hexagone avec des passages nuageux nombreux et des averses régulières, également beaucoup de vent. Les averses seront même parfois orageuses et des giboulées sont aussi à craindre, notamment entre le sud de la Garonne et le nord-est. Un ciel de traîne moins actif va progressivement gagner la Bretagne et la Normandie jusqu'au Poitou-Charentes demain après-midi. Le risque d'averses deviendra alors plus faible et les éclaircies vont s'élargir. Et puis le Roussillon et la Provence-Alpes-Côte d'Azur auront un temps plus calme avec des périodes ensoleillées nettement prédominantes. Et puis en début de journée, les températures seront comprises entre 1 et 9 degrés. Et demain après-midi, prévoyez 9 à 13 degrés en général, avec 13 degrés pour Paris, Lyon et Montauban, mais tout de même 14 à 19 degrés autour de la Méditerranée.